Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Nós vamos proclamar o resultado. Sim, 55. Não, 22.
Voilà, 55 oui, 22 non. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, contrainte de quitter le pouvoir après une vingtaine d'heures de débat. Les sénateurs ont donc dit oui à sa suspension. Dilma Rousseff sera jugée. Un procès en destitution pour maquillage des comptes publics. C'est un coup d'État, s'est-elle défendue il y a une heure. Ce qui est en jeu, c'est le respect des urnes et de la Constitution, a-t-elle déclaré. Une certitude, le pays est en quelque sorte divisé. En quelques mois, il s'est enfoncé dans une crise très complexe qui mêle récession économique, scandale de corruption, lutte de pouvoir, essoufflement des institutions. Le système politique brésilien est-il à bout de souffle? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, une invitée qui est à mes côtés pour l'instant, nous attendons la seconde. Maud Chirieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et puis vous êtes spécialiste de la dictature militaire brésilienne. Nous attendons Juliette Dumont qui est justement là. Juliette Dumont, historienne de l'Amérique latine, spécialiste du Brésil, rattachée à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, qui est aussi membre du collectif MD18 en France, un collectif qui a dénoncé le processus de la destitution de Dilma Rousseff. Bonsoir Juliette Dumont.
Bonsoir.
Je vous laisse reprendre votre souffle.
Merci.
Et je voudrais commencer avec vous, Maud Chirieu. Je le disais, Dilma Rousseff le dit depuis des semaines, depuis presque des mois, elle dénonce un coup d'État institutionnel. Est-ce que vous reprendriez cette formule sur ce qu'il vient de se passer au Brésil ?
Oui, je dirais un coup d'État parlementaire peut-être, puisque c'est vraiment le Parlement qui a été à la manœuvre, même si le Suprême Tribunal n'a pas choisi de bloquer la procédure. Mais effectivement, je pense que même si en apparence les institutions sont respectées, il manque un énorme facteur qui est une quelconque preuve d'une culpabilité personnelle de la présidente qui, en particulier dans un régime présidentialiste, détient la souveraineté populaire. Elle a été élue par plus de 54 millions de personnes et elle est donc destituée pour des erreurs, pour une impopularité et surtout pour des ennemis sans faute personnelle.
Et pour être presque représentative d'une classe politique, c'est ça ?
Oui, elle est destituée beaucoup par des alliés qui sont devenus des adversaires puis des ennemis qui lui reprochent son héritage, l'héritage de Lula, des deux mandats de Lula et de son premier mandat, des tentatives d'une politique sociale et économique légèrement différente de celle qui est défendue par ceux beaucoup plus à droite d'un point de vue économique qui arrivent au pouvoir.
Juliette Dumont, est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec cette expression, cette notion, coup d'État au Brésil ? Vous reprenez la formule ?
Oui, totalement. À l'instar de Maud Chirieu, on peut dire qu'effectivement, les institutions, les lois ont été respectées, mais il y a les lois, les institutions, les règlements et ce qu'on en fait, l'interprétation qu'on en donne. La constitution brésilienne prévoit le processus d'impeachment. Après, quand il n'y a effectivement pas de crime de responsabilité avéré, c'est plus une déstabilisation de la démocratie à laquelle on assiste.
Il manque la preuve.
Ah oui, il manque la preuve. D'ailleurs, le vote du 17 avril des députés, quasiment aucun n'a fait référence au motif pour lequel Dilma Rousseff est mise en accusation, c'est-à-dire ces fameux pédalages budgétaires. Et on a vu quelque chose qui est totalement idéologique.
Et de nombreux membres de l'opposition qui ont voté cette destitution sont eux-mêmes dans des procédures de corruption, sont face à la justice. Maud Chirieu, vous vouliez réagir ?
Oui, la perversité de ce processus, c'est que dans les motifs de l'impeachment de Dilma Rousseff, il n'y a pas de mention de corruption, du tout. Il y a des mentions de procédés, de maquillage de comptes publics, qui sont en fait, même si le mot de maquillage de comptes publics peut sembler impressionnant, des retards de paiement de quelques semaines, qui sont en fait extrêmement fréquents dans l'administration brésilienne et dans beaucoup d'administrations de plein de démocraties. Donc elle n'est pas accusée de corruption. Personne d'ailleurs ne dit qu'elle est accusée de corruption. Mais l'ambiance publique, le débat public autour de l'hégémonie de la corruption porte cet impeachment pour un délit mineur. La perversité, la seconde perversité, c'est que cet impeachment dans un climat de dénonciation de corruption pour un délit mineur est mené par des corrompus.
Alors Juliette Dumont, je voudrais qu'on en vienne à une notion qu'on a beaucoup entendue ces dernières semaines, celle de l'épuisement du système politique brésilien. Qu'est-ce qu'on entend par là ?
Alors d'abord, on va essayer de revenir un petit peu sur ce qu'est le système politique brésilien et ce qui en fait peut-être la fragilité, c'est-à-dire un présidentialisme de coalition.
Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire, présidentialisme de coalition ?
Cela veut dire que le président n'a jamais la majorité en fait au Congrès. Donc il est obligé, pour gouverner, de faire des coalitions avec des partis qui sont proches parfois du parti dont il est issu,
parfois
mais
beaucoup
aussi
moins.
Beaucoup moins, ce qui amène à, on va dire, des négociations qui parfois prennent un petit peu un tour de chantage ou de corruption. Le Parti des Travailleurs n'a effectivement pas échappé à cela. Le scandale du Mensalão en 2005, c'était bien ça, c'est-à-dire que on a payé des députés pour voter les lois prônées par le Parti des Travailleurs. Et ce Parti des Travailleurs qui se présentait dans les années 80-90 comme le parti justement qui dénonçait ce système et qui se voulait un parti propre, c'est-à-dire au-dessus de ces pratiques, eh bien une fois arrivé au pouvoir, il a également pratiqué ce qu'il reprochait aux autres. Donc il y a cet épuisement là qui fait que
mais donc ça veut dire quoi pause... Ça veut dire, vous pensez, Juliette Dumont, qu'il faudrait changer les institutions, passer à moins de proportionnel et un scrutin plus majoritaire, ça permettrait de faire avancer la démocratie brésilienne?
Alors il y a d'abord ça. Ensuite, il y a la question du financement des campagnes électorales, qui sont deux propositions que Dilma Rousseff a faites. C'est-à-dire qu'elle a proposé à plusieurs reprises de réformer le système politique, notamment pour éviter ce genre de pratiques. Et à chaque fois, le Congrès s'y est formellement opposé. Il y a eu aussi, parce que c'est un acteur très important dans cette crise, des médias qui ont ouvertement fait campagne contre ces réformes du système politique.
Dont TV Globo. On y reviendra. Je voudrais qu'on aille petit à petit, parce que c'est effectivement un système très compliqué, très complexe, et il faut bien que nos auditeurs comprennent toutes les subtilités. Maud Chiriot, est-ce que vous êtes d'accord? Cette crise, c'est aussi le syndrome de l'épuisement d'un système politique et particulièrement de ce présidentialisme de coalition. Vous partagez l'idée?
C'est un élément de la crise, certainement, puisque c'est un système qui, de fait, a empêché qu'une force rénovatrice véritablement rénove ce dans quoi elle s'insérait, c'est-à-dire le Parti des Travailleurs. Je n'exempte pas le Parti des Travailleurs de culpabilité, hein. Je pense que Lula, en particulier, a choisi de ne pas changer
le précédent président,
qui en avait la légitimité politique à un moment, qui avait le pouvoir politique, qui est toujours très populaire, même si c'est difficile pour lui en ce moment aussi, parce que l'échec de Dilma Rousseff, c'est aussi un peu son échec. Mais le PT a choisi de ne pas mener cette bataille-là, a sous-estimé la menace que ça représentait pour lui, pour le pouvoir d'une gauche de gouvernement et pour la démocratie. Et les combats menés par le PT au début, en tout cas, ont été des combats d'inclusion sociale, de mise en place d'un tout petit début d'État social qui a permis de nourrir des dizaines de millions de personnes, mais qui, à l'échelle de ce qu'on considère être un État social ou un État-providence, est très minime. Mais en tout cas, la bataille politique, la bataille du système, la bataille qui aurait peut-être permis de renouveler des élites politiques qui sont des castes, des clans, qui sont des fils, petits-fils, arrière-petits-fils d'élus dans les provinces et dans les grandes villes brésiliennes, cette bataille-là, le PT a choisi de ne pas la mener. Et on peut lui en faire le reproche aujourd'hui.
Juliette Dumont, pourquoi le parti, le PT, a refusé de faire ces réformes? Est-ce que c'est un manque de courage politique? Est-ce que c'est un manque de marge de manœuvre?
Les deux. Parce que je pense qu'il y a des pans du PT qui sont favorables à la réforme politique, et notamment Dilma Rousseff. Il y a vraiment un problème, encore une fois, de marge de manœuvre, puisque, encore une fois, pour qu'une loi soit votée et une réforme politique, ce qui est quand même pas rien, soit réellement mise en œuvre, il faut une coalition qui n'existe pas. Et ce que révèle aussi cette crise, et comme l'a dit Maud Chiriot, c'est des clans, des castes qui sont prêtes à tout, je dirais, pour rester au pouvoir, pour faire en sorte que n'émerge pas de nouvelles forces politiques, un nouveau personnel politique aussi, qui puisse rénover un petit peu le paysage brésilien en matière politique et qui puisse porter le Brésil vers les réformes nécessaires. Donc, il y a une part de responsabilité du Parti des Travailleurs.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que, comme Moutinho, vous dites, oui, il y a ce problème d'essoufflement du système, mais pour autant, ça n'exonère pas Dilma Rousseff?
Je dirais que Dilma Rousseff, sur ce point-là, était plus courageuse que Lula. Pas plus courageuse. Lula fait passer ses réformes sociales avant le reste. Au prix peut-être d'une ambition en termes de réforme du système politique. Dilma l'a tenté. Le problème, c'est qu'elle n'a pas et le charisme et la popularité de Lula, qui lui aurait peut-être permis de faire passer cette réforme du système politique. Et ce n'est pas une très bonne négociatrice. C'est-à-dire que contrairement à Lula, elle n'a pas su, ou pas voulu, ça je n'en sais rien, mais comprendre bien les arcanes du Congrès, recevoir les députés, constituer les alliances qu'il fallait, etc. Et elle se retrouve aujourd'hui un petit peu prisonnière de cela.
Le système politique brésilien est-il à bout de souffle? C'est donc le débat de ce soir avec Juliette Dumont, que vous veniez d'entendre, historienne rattachée à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, et Moutinho, qui est maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Je voudrais vous demander, Moutinho, est-ce que, paradoxalement, cette crise que traverse le Brésil ne va pas permettre de remettre cette réforme difficile à faire, on a vu, à l'ordre du jour?
Je ne pense pas.
C'est trop optimiste.
Même si je ne veux pas casser les espoirs et jouer l'oiseau de mauvais augure, mais je ne vois pas pourquoi le groupe qui actuellement accède au pouvoir tranquillement sur les ruines du PT. Le PT va sortir détruit de cet événement. Je peux toujours espérer qu'autre chose se reconstruise ou qu'il se reconstruise différemment, mais c'est beaucoup d'optimisme que de penser ça actuellement. Et ce groupe, qui est le groupe qui détient actuellement le gouvernement et les cabinets qui sont en train de se constituer, réunit le plus de condamnés ou mis en accusation pour corruption de l'histoire de la République.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il va être impossible de faire évoluer un système dans la mesure où ceux qui devraient le voter en profitent?
Bien sûr. Pourquoi actuellement, ce congrès très conservateur, désormais allié à un gouvernement très conservateur et surtout extrêmement attaché à l'existant, extrêmement attaché à la propre domination éternelle de ces élites conservatrices, de ces familles d'élites conservatrices, pourquoi est-ce que eux mettraient en œuvre une réforme politique? Il n'y a absolument aucune perspective de ça. Si cette perspective arrive, elle arrive de la rue, des mouvements sociaux, d'une protestation.
D'ailleurs, Dilma Rousseff a appelé à se mobiliser après ce qui s'est passé après ce vote des sénateurs. Juliette Dumont, vous partagez ce constat avec Moutinho?
Totalement.
Il y a absolument aucun espoir que les choses évoluent, que cette destitution fasse une sorte d'électrochoc?
Pas au sein de la classe politique brésilienne qui vient de voter l'impeachment, qui encore une fois celle qui a tenu en échec les propositions de réforme du système politique proposées auparavant, et qui encore une fois effectivement n'a aucun intérêt à réformer un système politique qui lui profite entièrement. D'autant que, pour prendre juste l'exemple du financement des campagnes électorales, qui était quelque chose qui était porté par le gouvernement jusqu'au mois de mars, et cette réforme, notamment pour éviter les financements privés et la corruption, a été enterrée à la mi-mars. Donc... Encore une fois, peut-être qu'il y a...
Pas d'espoir de ce côté-là.
Pas de la classe politique, en tout cas.
Moutinho, alors peut-être en dehors de la classe politique. Vous disiez, donc, dans la politique, montée en puissance des idées conservatrices. Est-ce qu'il y a une société civile qui est active sur ce plan-là? Est-ce qu'il y a des personnalités qui émergent et qui essaient de faire entendre cette voix aujourd'hui au Brésil?
Peu de personnalités qui émergent, malheureusement. Peu de véritables partis qui émergeraient, qui constituerait une alternative au PT. Il y a des partis qui se situent à la gauche du PT, puisque le PT, il faut le rappeler, et le gouvernement de Dilma Rousseff ne menait plus une politique de gauche, hein, ni même vraiment de centre-gauche, en partie parce qu'elle avait les poings liés, en partie par choix politique. Mais ni personnalité, ni véritablement parti. Des mouvements sociaux, peut-être, oui, des nouvelles générations de mouvements sociaux. Par exemple, actuellement, dans les universités et surtout les lycées au Brésil, il y a un mouvement puissant de contestation de l'abandon par l'État d'un certain nombre de secteurs du service public, avec des occupations d'établissements. Je crois, 60 000 lycéens actuellement dans les villes de Rio et de Sao Paulo occupent leurs établissements scolaires en réclamant public, en réclamant des locaux décents, en réclamant davantage de cours, en réclamant le remplacement des professeurs qui sont rarement remplacés puisqu'il y a un manque de personnel. Ces établissements sont les établissements des catégories les plus pauvres. Les riches vont dans le privé. Hein. Il y a un énorme secteur privé qui concerne toute la classe moyenne et supérieure. Donc c'est les classes populaires qui vont dans ces établissements-là et qui représentent une nouvelle génération qui attend quelque chose de l'État, qui attend quelque chose de ses élites et qui peut être disposé à lutter, mais après avoir perdu une telle bataille, c'est dur de perdre une grande lutte. Et la lutte contre l'impeachment de Dilma Rousseff, elle a concerné des millions de gens. On les a moins vus dans les médias internationaux, mais il y a eu des millions et des millions de gens dans la rue. Il y a eu des communautés indigènes qui ont descendu les grands fleuves amazoniens pour aller manifester dans les villes du nord du pays pour défendre le maintien du gouvernement, de la présidente et du pouvoir légal. Quand on perd une telle bataille et quand on se retrouve avec un tel gouvernement, c'est difficile de reprendre un combat qu'on a peur de perdre de nouveau.
Alors, pour essayer peut-être de terminer sur une touche un petit peu plus positive, je vais essayer de retourner la question. Vous me direz ce que vous en pensez, Juliette Dumont. Ce midi, l'un de nos invités, Alfredo Valadao, disait que ce qu'il y avait peut-être de positif dans cette crise, c'est qu'aujourd'hui, chaque Brésilien connaissait les arcanes de la Constitution, les articles, et que donc ça avait au moins eu le mérite de mettre le débat sur la table. Vous ne partagez pas du tout cette analyse?
Non, pas du tout. Justement, l'un des grands acteurs de ce processus d'impeachment et de manière générale de la vie politique et économique au Brésil, ce sont les médias. Vous avez évoqué tout à l'heure TV Globo, mais il n'y a pas que TV Globo, même si c'est le grand empire qui mange un peu tout sur son passage. Mais l'essentiel de la presse, des médias, sont détenus par une cinquantaine de familles. On fait depuis longtemps ouvertement campagne contre le PT, contre la politique du gouvernement, et sont dans une logique de désinformation vraiment très importante.
On a confisqué le débat, alors vous dites
complètement l'inverse. On a totalement confisqué le débat, on a matraqué le fait, finalement on a fait rentrer dans la tête des gens que Dilma était corrompue et que c'était pour ça qu'elle était destituée. Donc on a fait l'amalgame entre le motif juridique invoqué et la corruption, ce qui a permis de mobiliser, on va dire, des masses qu'on a vues alors qu'on ne montrait pas du tout les millions de gens dont parlait Mochirio, et c'était très intéressant de voir, par exemple, dans le journal O Globo, quand il y avait des manifestations pro-impeachment, le titre c'était « Le Brésil descend dans les rues », et quand c'était des manifestations contre l'impeachment, c'était « Les alliés du PT descendent dans la rue ». Or, il n'y avait pas que des membres du PT qui descendaient dans la rue. D'ailleurs, au début, ils étaient un petit peu gênés parce que, comme l'a rappelé Mochirio, la politique que mène Dilma Rousseff depuis un an et demi, c'est une politique d'austérité qui n'est plus vraiment de gauche.
Donc si je vous comprends bien, il faut un renouvellement de la classe politique et puis il faut aussi un renouvellement de la classe médiatique, Mochirio.
Oui, mais le renouvellement des élites. Le renouvellement de la classe médiatique dépend des financements dont disposent les médias et à qui ils sont susceptibles de les attribuer. Mais effectivement, parmi les grandes institutions qui dysfonctionnent, à mon avis, hein, qui semblent fonctionner, qui semblent s'exprimer librement parce qu'elles s'opposent au pouvoir, il y a la presse, tout comme d'autres institutions brésiliennes.
Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. C'est donc la fin de cette émission avec nos deux invités, Mochirio, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Vous êtes spécialiste de la dictature militaire brésilienne. Et puis Juliette Dumont, historienne de l'Amérique latine, spécialiste du Brésil, rattachée à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Merci également à Florence Ponce, à Hélène Avril. Tout de suite, c'est un nouveau journal sur RFI.